9 avril. Bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous. Bonjour Jean-Sébastien.
Bon 99e jour de l'année, Hélène.
Ah oui!
Déjà.
Et les lundis se suivent et ne se ressemblent pas. Hein? La semaine passée, c'était lundi de Pâques, on était en congé.
Absolument.
Et puis, ben aujourd'hui, on reprend le collier pour une semaine de 5 jours.
Absolument, absolument.
99e jour...
De l'année.
De l'année.
De l'année 2018.
Ah, demain, ça va être le 100e jour.
Et on ne peut rien vous cacher, Hélène.
On va fêter un 100e ici à Canalem.
Absolument, mais ça ne sera pas demain.
Non, un petit peu plus tard quand même.
C'est, je crois, la semaine prochaine.
L'émission des livres et des...
Des livres plein les oreilles, 100e émission déjà de
Clotilde.
Clotilde qui sera en son 100e épisode des livres plein les oreilles. Ça sera diffusé, si ma mémoire ne s'abuse, jeudi de la semaine prochaine à midi.
Ce sera une émission festive.
Absolument.
Alors, on vous écoute dans les éphémérides dans ce 99e jour de l'année.
Alors, 9 avril 1682, René Robert Cavalier de La Salle, un nom toujours très long à dire, Monsieur de La Salle prend possession du Mississippi au nom de la France. 1799, on découvre les propriétés anesthétiques de l'oxyde d'azote, qu'on connaît aussi sous le nom de gaz hilarant. 9 avril 1865, en Virginie, le sudiste Robert Lee se rend aux troupes de l'Union. C'est la fin de la guerre de sécession. 1907, alors on disait que les lundis se suivent et ne se ressemblent pas. Les 9 avril se suivent et ne se ressemblent pas. 9 avril 1909, la neige ensevelit le nord-ouest du Québec où des localités resteront sans ravitaillement pendant 10 jours.
Bon, alors qu'est-ce qu'on a à se plaindre?
9 avril 1917, au début de la bataille de la crête de Vimy en France, les Canadiens font plus de 9000 prisonniers allemands. 1934, Camillien Houde redevient maire de Montréal. 1998, toujours un 9 avril, au moins 180 personnes périssent piétinées dans une bousculade au dernier jour du pèlerinage musulman à la Mecque. 1999, selon l'ONU, plus de 500 000 albanophones ont pu fuir le Kosovo depuis le début des bombardements de l'OTAN le 25 mars. Donc, en quelques semaines, plus d'un demi-million de personnes qui fuient le Kosovo. 2002, encore un 9 avril, Québec signe une entente de 475 millions avec les Inuits du Nunavik pour l'exploitation hydroélectrique du Grand Nord. 2003, au 21e jour de combat en Irak, Saddam Hussein ne dirige plus le pays. Et c'est le 9 avril 2003, donc en symbole de la fin de son règne, qu'une statue est renversée à la place Al-Fardaous. Et 2005, une autre très grande nouvelle dont on ne peut passer sous silence en Angleterre, le prince Charles épouse Camilla Parker Bowles.
Ouais.
9 avril, sinon c'est l'anniversaire de naissance de l'écrivain français Charles Baudelaire, né en 1821. Et le 9 avril est également la date du décès en 1982 du chef d'orchestre canadien Wilfrid Pelletier,
dont la plus grande salle de la Place des Arts porte son nom. Merci Jean-Sébastien.
Avec plaisir.
Une très triste à la presse, comme dans les autres journaux d'ailleurs. La presse en Saskatchewan, c'est Audrey Ruel-Manceau qui a été envoyée. Là-bas, nous sommes tous des broncos. Un moment de silence à l'heure où un match aurait dû débuter. Des prières et des chants en lieu et place, des clameurs de la foule. Les larmes ont coulé hier soir à l'aréna de Humboldt, où des centaines de personnes ont rendu hommage aux 15 victimes de la tragédie qui a décimé l'équipe de hockey locale. Hippodrome Blue Bonnets, déloger les squatteurs avant de démolir. Affaire vit au travail une poupée vaudou pour mieux endurer son patron. Pause famille, zone interdite, y a-t-il trop de règlements? Nous avons posé la question à des ados et à des spécialistes. Le temps a semblé se figer hier soir au domicile des Broncos dans la petite municipalité de Humboldt en Saskatchewan. À l'aréna, Elgar Peterson, des centaines de personnes se sont réunies, ont prié et ont pleuré ensemble la mort de 15 des leurs lors d'une veillée organisée par différentes églises. Un premier pas vers le deuil qui s'annonce long et difficile pour la communauté de 6000 âmes. Les centaines de fleurs apportées à l'aréna depuis 2 jours avaient été disposées autour du logo de l'équipe locale au centre de la glace. Les gradins, eux, étaient pleins à craquer. Sur la moitié de la glace, des chaises faisaient face à une petite estrade dans laquelle étaient accrochées les photos de ceux qui se trouvaient à bord de l'autocar, qui est entré en collision avec un camion semi-remorque vendredi soir à une trentaine de kilomètres sur la route 35 au nord de Teesdale. Peu avant 19 heures, les proches des victimes pour qui étaient réservés les sièges sur la glace ont commencé à arriver. Les étreintes étaient longues, émouvantes. Assis dans la deuxième rangée, un jeune homme aux cheveux décolorés portait le chandail numéro 21. Il s'agissait de Nicolas Chumlensky, ce joueur qui a téléphoné à son père depuis l'autocar le soir de l'accident. L'un des survivants, le seul à avoir obtenu son congé de l'hôpital. Il portait son chandail d'équipe blanc, vert et jaune et on pouvait apercevoir une meurtrissure sous son œil gauche. La cérémonie s'est ouverte sur l'hymne national chanté a cappella par Faith Schuller, la voix des Broncos, puis s'est poursuivie avec un témoignage du maire de la petite municipalité, Rob Muench, qui a remercié le pays tout entier pour son soutien des derniers jours. Il a passé le micro au président de l'équipe, Kevin Geringer, qui a nommé les survivants avant d'enchaîner avec une liste plus pénible. Les suivants ne sont dorénavant plus parmi nous. Nous allons partager leurs mémoires, les garder près de nos cœurs à jamais, a-t-il dit avant de nommer une à une les victimes, la voix étranglée par l'émotion. Un hippodrome à démolir, des squatters à reloger. L'hippodrome Blue Bonnets sera bientôt chose du passé. La démolition devant débuter dans les prochaines semaines, mais avant de faire disparaître une fois pour toutes l'ancien hippodrome de Montréal, des policiers et des intervenants sociaux devront ratisser les bâtiments abandonnés afin de reloger les squatters qui ont élu domicile. La Ville de Montréal a récemment accordé un contrat de 11 millions de dollars à l'entreprise DemoSpec afin de procéder à la déconstruction des différents bâtiments sur le site de l'ancien hippodrome. Une autre étape de franchie. On démolit tous les bâtiments, indiquait l'élu Magda Popenou lors d'une rencontre de l'administration Plante en février dernier. Selon l'échéancier, les travaux devraient être terminés d'ici décembre, marquant la fin définitive de l'aventure pour Blue Bonnets qui a fermé ses portes en 2009. Un nouveau chapitre s'ouvrira ensuite. Mais avant de les déconstruire, Montréal devra s'assurer que les bâtiments sont bel et bien vides. À l'approche de la démolition, la Ville a donc demandé au SPVM d'assurer une présence pour éviter que des gens ne se trouvent à l'intérieur alors qu'on procédera au démantèlement. Ainsi, le 25 avril prochain, un groupe formé de policiers, d'infirmières et d'intervenants sociaux se rendra sur place à la rencontre des squatters. Vivre dans un frigo, c'est la chronique de Mario Girard aujourd'hui dans la presse. L'affaire a eu lieu il y a environ une dizaine de jours dans une entreprise américaine. Un employé entrepose son lunch, un plat de riz frit aux crevettes, dans le frigo commun du bureau où il travaille. 30 minutes plus tard, il se rend compte que son repas a disparu. Désemparé et affamé, l'homme met le service des ressources humaines sur le coup. On déclenche une enquête, entre guillemets. On lui fait voir une bande vidéo dans laquelle on aperçoit une collègue, sa plus proche voisine, qui prend le lunch et l'enterre au fond d'une poubelle. La direction décide d'envoyer une note à tous les employés leur demandant de ne pas faire ce genre de choses. La voleuse, surnommée la psychopathe par celui qui s'est fait voler le lunch, fait alors la surprise en lisant le courriel. C'est à ce moment qu'un échange éclate entre la victime et la voleuse devant tout le monde. Fin du drame. Cette histoire d'une banalité déconcertante digne d'un épisode du Cœur à ses raisons a été racontée dans une succession de gazouillis publiés par un autre collègue, Zach Toscani. Son récit est devenu hautement viral au cours des derniers jours, servant d'exutoire à des dizaines de milliers de gens qui ont voulu faire partager leur histoire de frigo de bureau. Des experts s'en sont mêlés. On a pu apprendre une foule de choses sur le partage des frigos par un groupe d'employés d'une même entreprise, entre autres qu'une personne sur 5 a déjà volé et mangé le lunch d'un collègue. Un autre spécialiste a déclaré que le frigo d'une entreprise représente le microcosme de ce milieu de travail. Je suis plutôt d'accord avec cette théorie. Un frigo, lorsqu'il est partagé par plusieurs personnes, peut révéler mille et une choses sur la personnalité de ses utilisateurs. Outre les personnes sans scrupules qui osent voler le lunch d'un autre, il y a les insouciants qui laissent traîner leur restant de lunch pendant des jours, voire des semaines. Mènent-ils des expériences secrètes dans le but de découvrir quelle catégorie de champignons peut naître sur un sandwich au jambon oublié pendant 18 jours? Il y a aussi ceux qui n'hésitent pas à protéger leurs biens ou à marquer leur territoire en mettant leur nom sur certains aliments. Ce lait appartient à Madeleine. Prière de ne pas y toucher, s'il vous plaît. Il y a également ceux qui se foutent de tout en écrasant la pâtisserie à laquelle tu rêves depuis le matin avec leur plat Tupperware rempli de pâté chinois. Finalement, il y a ceux qui sont ordonnés, font les choses correctement, cherchant une place discrète sur la dernière tablette du frigo. Ce sont les mêmes qui lavent minutieusement leur contenant après avoir mangé. Au moment d'écrire ces lignes, j'imagine la réaction de certains lecteurs ce matin. « Ouais, Monsieur Girard, on commence la semaine fort. » Ou alors « Il pleut des bombes en série et vous nous parlez de vol de lunch. » C'est justement à cause de la série que je vous parle de cette histoire de frigo. Si cette insignifiante affaire a suscité autant de réactions, c'est parce qu'elle rejoint les gens dans leur quotidien le plus profond, dans leur comportement le plus primaire. Beaucoup de travailleurs ont des frustrations à exprimer sur la difficulté de travailler et de partager un frigo avec des gens qui sont, faut-il le préciser, de simples collègues. Il ne s'agit pas ici de membres de la famille ou d'amis, mais de relations qui se situent bien souvent entre la cordialité et l'indifférence. Durant le week-end, je regardais les reportages sur l'attaque chimique présumée près de Damas et je repensais à cette histoire de frigo. Je vous parle de la série, mais je pourrais aussi évoquer la réaction qu'ont certaines personnes à l'arrivée massive de migrants au Québec, de la guerre des nerfs qui se déroule depuis de nombreux mois dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, du conflit sans fin qui se joue à la frontière de la bande de Gaza. Les composantes de cette affaire de frigo sont exactement les mêmes que pour n'importe quel autre grand conflit mondial. On se bat pour un territoire pour les mêmes raisons qu'on a du mal à partager un frigo au bureau. Le problème avec l'immense popularité obtenue par cette affaire sur les réseaux sociaux, c'est que ceux qui s'exprimaient le faisaient souvent pour nourrir davantage le conflit, pour en rajouter, pour décrire les victimes qui sont ou montrer du doigt les méchants qui ont osé voler un jour leur macaroni au fromage. Vivre en société est le plus grand défi de l'être humain. C'est un travail de tous les instants. Ce défi est particulièrement grand en ce moment où on a l'étrange impression que le simple vol d'un sandwich pourrait nous guider vers un conflit mondial. Cette histoire nous apprend que les conflits peuvent naître de petites choses. La « psychopathe » entre guillemets a sans doute agi par esprit de vengeance. Le plat de riz frit aux crevettes a été le moyen sournois qu'elle a trouvé pour s'en prendre à son collègue. Et le frigo? Le frigo est le fameux territoire, celui que l'on défend jusqu'à en perdre la raison, jusqu'à ne plus savoir pourquoi. Vivre en société est le plus grand défi de l'être humain. C'est une grosse job, j'en conviens. Allons-y une étape à la fois. Commençons par le frigo. On réglera ensuite le mémérage devant la machine à café. La société Kinder Morgan Canada a annoncé hier qu'elle suspendait toutes les activités non essentielles et toutes les dépenses relatives au projet d'élargissement de l'oléoduc Trans Mountain. L'entreprise dit avoir pris cette décision à cause de l'opposition du gouvernement de la Colombie-Britannique à ce projet. Celui-ci a fait aussi l'objet d'une grande contestation de la part des écologistes et des Autochtones. Plusieurs manifestations se sont déroulées au terminal de la société à Burnaby, en Colombie-Britannique. Kinder Morgan dit vouloir consulter ses divers actionnaires afin de conclure une entente d'ici le 31 mai, qui permettrait au projet d'être réalisé. La décision de la société pourrait être un coup dur pour le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lequel a maintenu contre vents et marées que le projet serait terminé malgré la vive contestation et la décision du gouvernement de la province de porter le dossier devant les tribunaux.
Je suis descendu jusqu'au tarmac pour t'arrêter, te voler à l'avion. Le con qui voulait te prendre, te porter jusqu'à l'île des naufragés. Et des files d'attente pour te voir, pour te prendre. Des files d'attente à tes pieds. cheveux blancs comme l'hiver. Marie, pour te cacher et te mimer, tisser dans les nuages de l'Arizona pour que le temps ne rie plus de toi. Ce matin, ils ont brûlé ton lit. Tu as dormi comme un enfant détruit. Et tes deux bras sont des ailes en fer. Et tes deux pieds sont sur un plancher flottant. Et des files d'attente pour te voir, pour te prendre. Des files d'attente à tes pieds. Tu es le vertige de l'heure, un fuseau dans la peau, un changement d'air, un soleil dans le dos. Pour te voir, pour te prendre, des files d'attente à tes pieds.
On vient d'entendre Matt Visio, la pièce Les files d'attente.
À la une du Devoir, une photo où on voit Ever Alexis Mendoza Mateo et Ronnie Azael Miranda qui accusent leur ancien employeur de les avoir poussés à quitter leur emploi. Travail agricole et des migrants se réfugient dans une église. Plaidoyer contre les dérives des conditions de libération, le système de justice a besoin d'une réforme en profondeur, estiment des chercheurs. Livre « L'homme qui tutoie l'islam », Karim Akouche est un de ces rares Québécois qui ont côtoyé l'islamisme de près. C'est une correspondance de Paris de Christian Rioux. Cannabis, une formation collégiale bientôt offerte en Outaouais. Documentaire « L'épique combat pour la biodiversité ». Urbanisme pour en finir avec le dédoublement des chantiers à Montréal. Et série des civils attaqués à l'arme chimique, point d'interrogation. Sept travailleurs migrants agricoles du Honduras se sont réfugiés dans une église de Granby. Ils ont tous quitté entre la mi-janvier et la mi-mars l'entreprise d'attrapage de volailles Équipe Sarrazin et dénoncent les conditions de travail, des atteintes à leur dignité, des lésions professionnelles et des heures de transport non payées. Ils espèrent pouvoir rester au Canada pour obtenir justice devant leur employeur qu'ils accusent de les avoir poussés à partir, une version démentie par le propriétaire Yves Sarrazin. Le propriétaire affirme qu'un contrat en espagnol était également fourni aux personnes recrutées là-bas qui, eux, disent qu'il y avait un contrat, mais uniquement en français. Le directeur du personnel, Michel Baudin, les accuse de mentir. Ils ne sont pas venus pour travailler. Ils sont venus pour devenir citoyens, une version défendue également par son patron, M. Sarrazin. imposer des conditions de remise en liberté à des personnes marginalisées brime leurs droits et ne sert pas à la justice, estiment des chercheurs dans une étude qui vient d'être achevée et dont Le Devoir a obtenu copie. Les contraintes, comme l'interdiction de fréquenter un périmètre établi ou l'abstinence en cas de consommation de drogue, conduisent au non-respect à répétition des conditions, ce qui ne fait qu'engorger davantage les tribunaux, ont constaté les auteurs de l'étude, Marie-Ève Sylvestre, professeure au département de droit civil de l'Université d'Ottawa, et Céline Bello, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, qui plaident pour une réforme en profondeur du système de remise en liberté. Les juges et avocats rencontrés dans le cadre de l'étude sont toutefois d'avis que les conditions de remise en liberté ont un effet dissuasif et visent la réhabilitation des personnes qui en font l'objet. Directeur de la clinique Droit Devant, qui aide les personnes en situation d'itinérance à reprendre en main leur situation judiciaire, Bernard Saint-Jacques croit que l'étude vise juste. Les gens qu'on accompagne qui ont des contraventions ou qui ont commis un vol font face à des bris de conditions qui sont traitées comme des accusations criminelles ou une gradation de situations qui sont totalement démesurées par rapport à la cause de base, explique-t-il. À l'heure actuelle, le système fonctionne de façon mécanique, déplore-t-il. Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas des changements possibles, autant au niveau législatif que dans l'application et dans la culture du système de justice. Tragédie de lac Mégantic, une commission d'enquête s'impose. La justice a échoué à sanctionner les fautifs dans la tragédie de lac Mégantic. Seule une commission d'enquête permettra d'honorer la mémoire des disparus. C'est l'éditorial de Brian Miles. La tragédie de lac Mégantic restera impunie, titrait récemment Le Devoir. Près de 5 ans après la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire canadienne, la justice a fait preuve de son incapacité à sanctionner les dérives systémiques qui ont mené à la mort de 47 personnes, sans parler du traumatisme vécu au quotidien par les survivants du déraillement et de l'incendie monstrueux qu'a défiguré lac Mégantic. La semaine dernière, le directeur des poursuites criminelles et pénales, des PCP, annonçait l'arrêt des procédures criminelles contre la Montreal Main and Atlantic Railway, MMA, faute de preuves. La MMA, une compagnie réputée pour son laxisme dans l'entretien des voies ferroviaires et du matériel roulant, s'en tire indemne. En janvier dernier, un jury prononçait l'acquittement des 3 ex-employés de l'entreprise accusés de négligence criminelle ayant causé la mort. Le chef du train, Thomas Harding, le contrôleur, Richard Labrie, et le directeur des activités de la MMA au Québec, Jean Demaître. Ceux-ci étaient les mauvais coupables dans la mesure où une série d'événements indépendants de leur volonté ont mené à la tragédie du 6 juillet 2013. Équipement en piètre état, réparation bâclée, incendie de la locomotive, convoi laissé sans surveillance en haut d'une pente, etc. Qu'ils aient mis 7 freins sur le convoi au lieu de 14 ne suffisait pas, devant l'addition des dérives indépendantes de leur volonté, pour les condamner hors de tout doute raisonnable pour négligence criminelle. La justice a le pas paresseux. Elle a mis près de 5 ans avant de faire la démonstration de ses limites. Les procès criminels ne constituaient pas la voie appropriée pour rendre justice à la mémoire des 47 victimes, et pour restaurer au sein de la population la conviction qu'il n'y aura jamais plus de catastrophe ferroviaire impliquant le transport de pétrole liquide. C'est le procès de la déréglementation dans l'industrie ferroviaire qui doit être mené. Pour ce faire, il ne reste qu'une seule avenue possible, soit la tenue d'une commission d'enquête publique. Les Mégantiquois réclament depuis belle lurette cette commission, qui est plus que jamais nécessaire. Le gouvernement Trudeau ne peut plus la leur refuser. L'homme qui a foncé avec une camionnette sur des clients assis sur la terrasse d'un café-restaurant en Allemagne souffrait de problèmes psychologiques et voulait se suicider, ont indiqué dimanche les autorités en écartant toute motivation politique. Nous disposons d'éléments montrant que les raisons de l'acte sont à rechercher dans sa personnalité, a indiqué le chef de la police de Munster dans un communiqué en ajoutant qu'il n'y avait aucun élément sur des complices. L'homme de 48 ans était connu des services psychiatriques de cette ville de 300 000 habitants du nord-ouest de l'Allemagne. Pardon. Je reprends mon souffle. L'homme donc de 48 ans, identifié comme James R., était connu des services psychiatriques de cette ville de 300 000 habitants du nord-ouest de l'Allemagne, où il avait sa résidence principale et avait fait l'objet depuis 2014 de plaintes pour violences ou menaces venant principalement de sa famille. Au volant d'une camionnette, l'homme a percuté samedi après-midi à une heure où les passants se massaient sur les terrasses par un jour ensoleillé, des clients d'un café-restaurant très renommé localement. Deux personnes âgées de 51 et 65 ans sont mortes et une vingtaine d'autres blessées, dont une dizaine grièvement, selon la police. Réaménagement urbain pour en finir avec le dédoublement des chantiers. La Ville de Montréal veut imposer un moratoire pour éviter une répétition des travaux dans ses rues. Afin de protéger ses futurs aménagements urbains et d'optimiser ses investissements, l'administration municipale montréalaise souhaite imposer à ses différents partenaires un moratoire de travaux d'au moins 5 ans dans les secteurs qui viennent tout juste d'être remis à neuf. Faute de quoi, ces derniers auront l'obligation de les remettre en état, à leurs frais, en plus de devoir payer des pénalités pour compenser la dégradation prématurée de la chaussée. 100 $ par mètre carré, c'est l'amende que devra payer une organisation qui effectue de nouveau des travaux dans une rue pour le réseau local moins de 5 ans après la fin du chantier. Pour le réseau artériel, les frais s'élèvent à 120 $ mètre carré. La direction du Canadien de Montréal tiendra son bilan de la saison en 2 temps, les joueurs en matinée, puis la direction en après-midi, lundi, à Brossard. Le propriétaire et président du Canadien, Geoff Molson, et le directeur général, Marc Bergevin, seront tous les deux présents selon une convocation officielle acheminée dimanche. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens de ce lundi 9 avril 2018. Hélène Denis avec vous. Je vous invite à rester là dans un petit moment à la revue de presse du Journal de Montréal.
Si le loup me veut.
Vous êtes toujours à l'écoute du quotidien des quotidiens et on vient d'entendre la plus récente offrande musicale de Lydia Kepinski. Ça s'intitule Le 1er juin.
En une du Journal de Montréal, inconsolable. Deux jours après avoir vu leur équipe de hockey locale décimée dans un accident d'autocar, les habitants de Humboldt ont tenu une vigile émotive hier soir. Bordel informatique, un projet monstrueux et inquiétant. Un demi-milliard en informatique à la SAAC. Changement à prévoir, suggestion à Geoff Molson, la chronique d'Yvon Penneau. Trois ans après que Québec a promis de réduire sa dépendance aux consultants informatiques externes, la SAAC a embauché pas moins de 200 consultants pour mener à terme un méga-projet d'un demi-milliard de dollars, une situation qui soulève de l'inquiétude à l'interne. Avec un budget initial de 458 millions de dollars, le nouveau carrefour des services d'affaires, CASA, de la Société d'assurance automobile du Québec doit coûter 85 $ par titulaire de permis de conduire québécois. Le chantier, le deuxième plus important de l'histoire du Québec, mènera à une refonte complète de l'informatique de la SAAC. Il doit permettre d'offrir de nouveaux services en ligne aux usagers. Notre bureau d'enquête a toutefois appris que plusieurs observateurs de l'interne doutent que ce méga-projet puisse être complété dans une explosion des coûts et des délais. Sans une explosion des coûts et des délais. Au moins quatre employés, dont deux au cœur du projet, ont abandonné le navire au cours des derniers mois. Parmi les éléments qui inquiètent nos sources citent l'échec passé du grand patron de l'informatique de la SAAC dans un projet semblable chez Hydro-Québec et la présence de plusieurs de ses anciens collaborateurs. Le recours massif aux firmes externes, la sous-traitance d'une partie du projet en Inde, l'historique de difficultés d'implantation de ce type de logiciel chez plusieurs grandes entreprises. En plus des 200 employés à l'interne qui travaillent sur le projet, la SAAC confirme avoir dû recourir au service de 200 consultants externes pour mener le projet à terme. Pour expliquer ce recours massif aux consultants, la SAAC fait valoir qu'elle manquait d'expertise parmi ses employés. La communauté d'Humboldt n'oubliera pas ses Broncos. Près de la moitié de la population de la petite ville de Humboldt en Saskatchewan s'est entassée dans l'aréna de ses Broncos pour se recueillir hier soir, deux jours après que la moitié de son équipe de hockey junior eut perdu la vie dans un violent accident d'autocar. Ils seront pour toujours des Broncos de Humboldt, a lancé le président de l'équipe, Kevin Geringer, la gorge nouée devant les quelques 2500 personnes entassées dans l'aréna Elgar Peterson. Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue saskatchewanais Scott Moe étaient présents hier pour se recueillir, tandis que les moments de silence se sont multipliés aux quatre coins de la LNH samedi et hier. Au moment de mettre sous presse, quelque 65 000 personnes avaient fait don de près de 4,5 millions de dollars dans le cadre d'une campagne de sociofinancement pour soutenir les familles éplorées. Bien qu'il ait travaillé en Syrie pendant la guerre civile, le docteur Hassan Masri a confié que le soir de l'accident a été le plus long, le pire et le plus tragique de sa carrière. Le docteur Masri venait tout juste de commencer son quart de travail quand les premiers blessés ont commencé à arriver à l'urgence vers 21 heures. Trump condamne l'implication russe. Pour la première fois depuis qu'il est président des États-Unis, Donald Trump a attaqué personnellement le président russe Vladimir Poutine hier en pointant sa responsabilité dans une attaque chimique insensée en Syrie. La zone des atrocités est confinée et encerclée par l'armée syrienne, la rendant totalement inaccessible au reste du monde. Le président Poutine, la Russie et l'Iran sont responsables de leur soutien à l'animal Assad. « Il faudra payer le prix fort », a écrit le président sur le réseau social Twitter. hier sans dire clairement qui devra payer quel prix. Une attaque chimique présumée du régime syrien samedi a fait des dizaines de morts à Douma, en banlieue de la capitale syrienne Damas. La Russie a répliqué en affirmant que le régime syrien, son allié, n'avait pas employé d'armes chimiques lors de ses raids contre les rebelles à Douma, contrairement à ce que soupçonnent les États-Unis. Moscou a mis en garde Washington contre une intervention militaire pour des prétextes fabriqués en Syrie qui pourraient mener aux plus lourdes conséquences. La maison la mieux protégée au monde, un couple de la Malbaie vivra sous haute surveillance pendant près d'un mois, isolé dans la seule maison derrière l'imposante clôture qui délimite la zone rouge décrétée par les autorités du G7. La maison rouge et blanche de Rosaire Tremblay se retrouve bien malgré lui dans la zone ultra protégée du G7, ou bien malgré elle, on parle ici peut-être de la maison, mais aussi de Rosaire Tremblay. Depuis bientôt 3 semaines, une clôture de 10 pieds a été installée autour d'une vaste zone où se déroulera le sommet. L'image de sa maison, seule derrière cette clôture, est saisissante. L'accès sera plus difficile à partir du 15 mai, mais la clôture sera complètement fermée dès le 27 mai, a-t-il précisé. Ça va être assez restreint, surtout que la zone sera plus grande durant le sommet. Il ne manquera pas de barrage pour se rendre jusqu'ici. Sa demeure se trouve sur un splendide terrain au bord du fleuve, tout juste en bas d'une falaise. Directement au haut de cette falaise, les 7 dirigeants les plus puissants du monde se rencontreront au manoir Richelieu les 8 et 9 juin prochains. Le couple, donc, de propriétaires devra subir une enquête de sécurité dans les prochains jours afin qu'on s'assure qu'il n'est pas constitué de 2 personnes dangereuses. « Ça ne me dérange pas, je n'ai rien à me reprocher », a indiqué Rosaire Tremblay, très heureux que sa région reçoive un tel événement. Promis haut et fort pendant la campagne à la mairie de Montréal, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal pourrait se concrétiser dans les prochaines années avec l'annonce d'aujourd'hui. Des élus des 3 paliers de gouvernement sont attendus à Saint-Léonard cet après-midi pour une annonce concernant la participation financière de Québec et d'Ottawa dans le projet. Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec n'a pas indiqué l'échéancier du projet qui prévoit l'ajout de 5 stations vers l'est de Saint-Michel jusqu'à Anjou, sur une distance de 5,8 km dans l'axe de la rue Jean-Talon. Les employés syndiqués d'Emma Québec à Montréal ont donné à leur exécutif un mandat de grève général illimité à utiliser au moment jugé opportun. Les syndiqués ont voté à hauteur de 99 % pour un tel moyen de pression lors d'une assemblée générale tenue hier. Les travailleurs d'Emma Québec à travers le Québec sont répartis dans 8 unités syndicales, dont 3 à Montréal représentant environ 350 syndiqués. Ce sont ces derniers qui ont voté, soit les techniciennes et techniciens de laboratoire, les assistants et assistantes techniques de laboratoire et les travailleuses et travailleurs d'Emma Québec à Montréal. Ils sont sans contrat de travail depuis 2015 et les négociations sont dans l'impasse depuis 2016, notamment sur la question salariale. Le député péquiste de Matapédia, Pascal Bérubé, devra se résigner à passer les prochaines semaines loin de l'Assemblée nationale. « C'est avec tristesse que j'annonce que je serai absent de l'Assemblée nationale pour les 6 prochaines semaines. Il me faut limiter considérablement mes déplacements et mouvements à la suite d'une chirurgie », a annoncé le politicien sur son compte Twitter hier. M. Bérubé a fait une vilaine chute en perdant pied sur une plaque de glace il y a environ 2 semaines. Et s'est alors blessé au pied et à la cheville.
On somnolait chez nous comme ça. Dans nos jungles, le calme plat. Il a déboulé dans le soir, en disant mes mal sont encore au port. Moi j'étais larguée, classée, elle était bougie. bouche bée, et lui c'était Robert Taylor. Comme dans ses nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Fait pour deux, c'est bon bout. Trois là-dedans, ça va plus du tout. Il avait gagné la cup, fumé Navy Cut, claqué les tirelis. Quand elle enlevait sa main de ma main, ses yeux de mes yeux. Ça me faisait souffrir, comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Je voudrais qu'il s'en aille, de quoi j'ai l'air. Avec mes détails, mes haltères. Il portait des lions sur le dos, pour elle comme cadeau. Ça salissait tout. Moi je me sentais vieillot, fidèle, propriétaire d'elle. Malheureux comme tout. Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham. Capitaine Beau, lâchez-moi. Les femmes sont sensibles à tout ça. Laissez-nous tranquilles, basket, chocolat, noisette, sur notre canapé. Allez, Somerset, ailleurs, cassez les autres cœurs. Des autres fiancés, comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham.
Extrait de Souchon dans l'air, volume 2, c'était Karen Ann qui reprenait Somerset Maugham.
Des futurs médecins visitent l'Outaouais pour amorcer la tournée des journaux régionaux. C'est dans Le Droit, sous la plume de Jacques Normand Sauvé. Pour une troisième année consécutive, des étudiants en médecine de l'Université de Montréal sont venus passer un week-end en Outaouais pour découvrir les vertus de la région et celles de la pratique médicale chez nous. Cette initiative est d'abord celle d'une étudiante en médecine originaire de l'Outaouais, Sophie Highland, qui avait lancé cette idée il y a 3 ans auprès de la députée de Hull, Maryse Gaudreau, qui soutient financièrement la démarche. Depuis chaque année, de 15 à 20 étudiants de Montréal viennent passer une fin de semaine dans la région pour y rencontrer des médecins d'ici, des étudiants en résidence et même des représentants de tourisme outaouais pour découvrir l'environnement professionnel et physique qui les attend s'ils devaient un jour choisir de pratiquer la médecine dans la région. On a des postes de médecins spécialistes encore disponibles. C'est pour ça que ces jeunes-là, en étant ici pendant un week-end et en côtoyant des médecins, des résidents, vont peut-être choisir de vouloir faire leur stage ici en Outaouais. Et ce week-end aura peut-être été déterminant dans leur choix, explique la députée. Ce week-end, les étudiants universitaires montréalais de première et deuxième année ont ainsi pu rencontrer des médecins et visiter des groupes de médecins de médecine de famille, GMF, dans la région. Le docteur Marcel Guilbeault, président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'Ouest du Québec, a aussi pu rencontrer les futurs médecins, tout comme la docteure Anne-Marie Bureau, directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Interrogée sur cette démarche d'attirer des candidats dans un contexte où le régime de santé est profondément remis en question, la docteure Bureau explique « c'est épeurant pour eux. Il faut les rassurer. Au-delà de la structure, la pratique de la médecine familiale, c'est aussi du grand bonheur. Mon travail, c'est d'abord et avant tout de soigner. Il y a un vent de morosité autour de la médecine familiale, tout particulièrement. Est-ce que ce réseau-là est parfait? Certainement pas. Comment on fait pour faire mieux? On s'implique. C'est un peu ce qu'il faut démontrer à nos étudiants, qu'on est dans un milieu en Outaouais où on peut s'impliquer. Et si on s'implique, bien, on va changer les choses. Tragédie d'Humboldt, c'est comme un cauchemar, Jérôme Gaudreau dans la Tribune. Tout comme la planète hockey au grand complet, Colby Johnson est en deuil. Le dur à cuire du Phoenix connaissait quelques victimes de la tragédie touchant les Broncos de Humboldt. C'est comme un cauchemar. Né à Rosetown en Saskatchewan, Johnson a évolué avec certains joueurs des Broncos et en a affronté quelques-uns. J'ai joué dans le junior majeur à Prince George pour les Cougars et à Prince Albert, ou Prince George pour les Cougars et à Prince Albert avec les Raiders. J'ai côtoyé l'un des joueurs des Broncos chez les Raiders et heureusement, je l'ai texté et j'ai su qu'il était en vie. Mais d'autres de mes amis n'ont pas eu la même chance. En Saskatchewan, on finit toujours par se croiser dans le hockey mineur. Je ne comprends pas pourquoi on leur a volé la vie. Depuis ce drame, Colby Johnson prend davantage le temps de dire à ses proches qu'il les aime. L'ambiance au sein de l'équipe a aussi quelque peu changé. On s'imagine parfois ce qui arriverait si l'autobus avait un gros accident. Cette fois, c'est arrivé. Et c'est le seul véhicule routier qui est plus gros que notre autobus qui est entré en collision avec l'autobus des Broncos. Je ne réalise pas encore tout ce qui est arrivé. J'avais fermé mon téléphone durant la partie de vendredi. Quand je l'ai ouvert, j'avais une tonne de textos. Je ne comprenais rien. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais dévastée. Certains de mes amis sont morts, d'autres sont hors de danger, heureusement. Que l'on soit proche ou loin de cette équipe, ça touche tout le monde, croit l'entraîneur du Phoenix, Stéphane Julien. Ce n'est pas facile à vivre. Nos joueurs se rapprochent entre eux avec ce drame. On y pense souvent quand on est dans l'autobus, dit Stéphane Julien. Ces images d'horreur demeureront dans la tête de plusieurs, et ce, pour longtemps. C'est dans le Nouvelliste, Bécancour couronne son plus grand menteur. Comme le veut la célèbre citation de Mark Twain, il ne faut pas laisser la vérité gâcher une bonne histoire. Les participants à la 4e édition du concours de menterie de Bécancour ont assurément respecté à la lettre ces propos du célèbre écrivain. L'objectif de ce concours est simple. Les participants doivent raconter une histoire où la réalité est bien sûr embellie et fortement déformée. Plusieurs règles très strictes encadrent également les histoires fausses qui doivent être dénuées de propos racistes, xénophobes, choquants ou religieusement offensants. Pour une deuxième année, le trophée nommé en l'honneur du maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, qui n'est pas du tout reconnu pour ses mensonges, a été remis à Guy Cormier pour son histoire sur l'élevage de lapins. L'humoriste amateur a livré une performance digne des stand-up de l'époque des cabarets. C'est vrai que nous avons déjà gardé des lapins, mais il y a plusieurs choses d'exagérées, avoue le double vainqueur du concours de menterie de Bécancour. La compétition était aussitôt terminée que déjà Guy Cormier pensait à son histoire de l'année prochaine. Le mensonge demande beaucoup de préparation. J'ai toujours aimé faire le comique depuis que je suis tout jeune, précise l'homme originaire de Bécancour. Décidément, les Cormiers de Bécancour savent bien mentir. La deuxième place du concours est revenue à Raymond Cormier, le frère du vainqueur. Je retiens un peu de ma mère. Elle était comique et aimait raconter des histoires. Elle était très sociable, avoue Guy Cormier. Le jury de ce concours, composé de comédiens travaillant à l'École nationale de police de Nicolette, a exceptionnellement décerné un troisième prix cette année. Cette troisième place est allée à Yolande Guimont. La petite église du secteur Précieux Sang était bondée de spectateurs dimanche. Organisée par Patrimoine Bécancour, le concours de menterie permet d'animer cette petite église de bois ainsi qu'un des secteurs de la grande ville de Bécancour. De plus, près de 5 000 $ est amassé pour Patrimoine Bécancour grâce à cet événement. Il y avait des guerres de clochers à Bécancour. Maintenant, c'est terminé et un événement comme ça y contribue. affirme Jean-Paul Pépin, le responsable des aménagements et des campagnes de financement à Patrimoine Bécancour. Le concours permet aussi à certaines personnes de passer des messages. $1,70 le verre d'alcool minimum propose Éducalcool, c'est dans le soleil, Patricia Cloutier. Éducalcool suggère que le prix minimal d'un verre d'alcool au Québec soit fixé à $1,70. Des études indiquent qu'à ce prix, les adolescents et les personnes vulnérables seront moins enclins à en ingurgiter une quantité excessive. À l'heure actuelle, il est possible de trouver de l'alcool à 75 cents le verre de 13,5 grammes au dépanneur et à l'épicerie. On ne dit pas qu'il faut augmenter tous les prix de tous les alcools, juste établir un minimum pour éviter le développement de boissons alcoolisées sucrées très peu chères, explique Hubert Sassy, directeur général d'Éducalcool. C'est la position que défendra M. Sassy mardi devant les parlementaires qui étudient le projet de loi 170 sur l'alcool. Selon lui, les amendements que propose le gouvernement pour encadrer les boissons alcoolisées sucrées sont un pas insuffisant dans la bonne direction. Une étude de l'Institut national de santé publique parue en mars recommande au gouvernement d'établir un prix minimal pour l'alcool, comme il en existe déjà un pour la bière. À l'heure actuelle, ce prix minimal est d'environ $1 la canette de bière. Une voie que ne souhaitent pas emprunter les libéraux pour l'instant. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a plutôt annoncé qu'il interdira les boissons contenant plus de 7% d'alcool dans les épiceries et les dépanneurs. Ça n'empêchera pas l'industrie de s'adapter. D'offrir des canettes plus grandes est tellement pas cher que les jeunes vont pouvoir caler beaucoup d'alcool rapidement, exprime M. Sassy. L'Institut faisait également valoir que toutes les provinces du Canada, sauf le Québec et l'Alberta, ont fixé des prix minimaux sur l'alcool. Éducalcool consacre une grande partie du mémoire qu'il présentera aux députés à proposer l'imposition d'un cours obligatoire pour tous ceux qui servent de l'alcool au Québec. À ceux qui prétendent qu'il s'agit d'une embûche trop grande pour les restaurateurs et les propriétaires de bars qui manquent de main-d'œuvre, M. Sassy répond qu'il faut arriver en 2018. Il fait valoir que la formation Action Service offerte par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec peut être suivie en seulement 2 heures sur le web au coût de $45. Et pour terminer, dans le quotidien, c'est pas arrangé avec le gars ni la fille des vues, mais on parle d'alcool encore. La microbrasserie Le Saint-Fus ouvrira en septembre. C'est Myriam Gauthier qui signe l'article. La microbrasserie Le Saint-Fus de Saint-Fulgence ouvrira ses portes le 21 septembre. La coopérative qui occupera les locaux de l'ancienne caserne de pompiers, aujourd'hui l'édifice municipal de Saint-Fulgence sur la rue du Saguenay, proposera plusieurs bières misant sur des aromates différents. On en a une aux herbes boréales. On mise sur les produits locaux, comme le miel, par exemple, a expliqué le brasseur de la coopérative de travail, Charles Tremblay, qui se trouvait au kiosque de la municipalité au salon Expo Nature, au centre sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi, dimanche, en compagnie du maire Gilbert Simard. La microbrasserie a déjà concocté plusieurs bières au nom qui se veulent évocateurs de la petite municipalité, telles que l'Anse au foin, la Forestière, la Citelle ou la Vent des battures. C'est presque tout pour le quotidien des quotidiens, mais il nous reste une belle demi-heure à passer ensemble avec, entre autres, les actualités culturelles. Restez avec nous.